Boomerang et un lundi avec la romancière Lydie Selver ce matin, c'est parti. On dit parfois que les mots peuvent sauver, qu'il faut parler, vous savez, raconter, dire tout fort ce qu'on a sur le cœur. On dit parfois qu'un procès, ça sert à ça, à pouvoir mettre des mots. Dans celui-ci, il y aura les mots de ceux qui ne peuvent plus témoigner, qui se feront remplacer par des proches, par des témoins, ou même par des médecins ou par des policiers. Les mots des survivants aussi, de celles et ceux nombreux qui attendent depuis près de 6 ans de pouvoir témoigner. Les mots de la justice, les bons mots des avocats, les mots justes du président. Il y aura les mots coupables aussi, les mots complices, les demi-mots et les gros mots de celui, par exemple, qui avait choisi le silence et qui, soudain, sur la scène d'un procès qui lui donne un écho inespéré, lâche une logorée. Combien de mots vont être prononcés, répétés et retracés et racontés à la télé, sur les réseaux, dans les journaux, sur cette journée à propos de laquelle on disait justement qu'il n'y avait pas de mots. Et que peuvent les mots d'une salle d'audience? Dans quelle mesure est-ce qu'ils permettent ce qu'on appelle parfois, avec un peu de doute dans la voix, parce que le mot a perdu de sa superbe, la possibilité d'une résilience? De quoi sauvent les mots, pour peu qu'on puisse les dire, parler, raconter, dire tout haut? On dit parfois qu'un procès, ça sert à ça, à pouvoir mettre des mots.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Dans Boomerang, que peuvent les mots? Pour mon invité d'aujourd'hui, elle est romancière, prix Goncourt il y a 7 ans pour Pas pleurer. De sa plume cinglante aux accents lyriques, elle célèbre la langue, l'imaginaire, celles et ceux qui n'entrent pas dans les cadres aussi. En cette rentrée, elle fait paraître 2 livres, Rêver debout, hommage passionné à Don Quichotte de Cervantes et Famille. Un étrange huis clos autour d'un inavouable secret, 2 livres qui se répondent. Bonjour Lydie Selver.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Mais merci à vous.
Ce matin, de quoi sauvent les mots? Est-ce que vous avez fini par le savoir?
Mais les mots sauvent et tuent, les mots font du bien, du mal, et les écrivains expérimentent leur pouvoir, mais aussi leur impouvoir.
Parce qu'il arrive que les mots échouent.
Mais bien sûr, on le sait mieux que personne. Mais les mots peuvent beaucoup en même temps. Et tout le principe des psychothérapies repose sur les bienfaits de la verbalisation.
Qu'est-ce qu'ils ont pu pour vous, Lydie Selver, les mots?
Ils m'ont fait... Moi, je suis restée 4 années sur un divan. À l'époque, ça se faisait beaucoup. C'était presque un passage obligatoire. Et je pense que les mots m'ont fait beaucoup de bien. Mettre sur ce qu'on pense indicible, ce qui n'est même pas arrivé à la conscience, ou sur ce qui nous envahit d'émotions... mettre des mots pour justement mettre soit conscientiser, soit mettre à distance, soit...
C'est tout le sujet pour vous de ce grand procès qui va durer 9 mois, le procès du 13
voilà,
novembre.
Est-ce que les paroles vont pouvoir réparer le mal fait ou y a-t-il des douleurs irréparables? Moi, je pense qu'il y a des douleurs véritablement irréparables. Et c'est toute la faillite de la fameuse résilience. Toutes les douleurs ne sont pas réparables. C'est un mensonge que de croire ça, je pense. Il y a des choses qui tuent vraiment.
C'est fort pour une ancienne psychiatre et pour un écrivain de dire ça.
Mais bien sûr.
En quoi, par exemple, les mots vous ont-ils fait rêver, pour autant?
Mais toute la littérature... m'a fait rêver avec cette exigence que j'ai de plus en plus, c'est de rêver debout, c'est-à-dire de ne pas séparer ces rêves qui nous bercent lorsqu'on lit de la réalité.
Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est nécessaire?
Mais parce que je trouve qu'on est trop souvent avec le dire d'un côté et le faire de l'autre, qu'on est dans ce divorce entre l'agir et la pensée, entre la théorie et la pratique, qu'on a de très belles paroles qui ne se reflètent d'aucune manière sur nos vies. Je suis très sensible à ça, de plus en plus. Et c'est tout le projet du Quichotte. C'est de faire que les mots des livres ne soient pas lettres mortes, ne soient pas parure de cheminée, comme je le dis bien.
Et c'est de dire aussi qu'un monde sans rêve, un monde sans illusion, ce serait un monde invivable.
Sans doute, puisque le rêve, nous, me semble-t-il, ou les utopies, nous donnent le désir de forcer les portes de l'inconnu, d'aller vers l'ailleurs, Jean Béguet, mais nous donne l'élan indispensable, le désir pour aller vers.
Le Quichotte, dont vous interpellez l'auteur avec fougue dans ce livre Rêver debout, personnage qui vit sa vie en même temps qu'il la rêve, personnage qui prend donc la littérature au pied de la lettre et transforme les mots en actes. Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît, mais aussi ça vous interroge.
Mais bien sûr, ça me plaît que cesse ce divorce dans lequel nous sommes tous, me semble-t-il, entre ce que nous disons et ce que nous faisons, à des degrés divers. Il y en a qui arrivent à faire cette réconciliation entre les deux, mais ils sont rares. Et je suis la première à ne pas savoir souvent mettre en acte dans la vie ce que je pense de façon magnifique.
Oui, c'est
dans
ça.
Mes pensées, on est bien sûr, je suis incluse dans ces gens qui sont aussi dans le divorce.
En fait, ce personnage, il élargit la réalité aux dimensions de son rêve. C'est ce que vous écrivez page 32. Dans quelle mesure la réalité telle que nous la vivons est-elle trop étroite?
Mais il y manque sans doute la dimension spirituelle, dirait Bernanos. Il y manque le goût de l'impossible, le goût d'attraper les nuages, le goût de rêver d'un monde désirable.
Alors c'est ça qui se passe quand on essaie de faire plier la réalité aux exigences du rêve.
Souvent on atterrit douloureusement.
C'est-à-dire?
Eh bien, la réalité, elle est souvent abrupte.
On vous moque.
Elle est souvent épineuse, rectangulaire, on se fait mal sur elle.
Et on se fait traiter de fou, Lydie Salver.
On se fait aussi traiter de fou, bien sûr, bien sûr.
Don Quichotte, c'est un homme empli d'un désir de justice et éthiquement presque parfait.
Oui.
C'est ce que vous écrivez, un homme
c'est
aussi
agaçant.
Qui se confronte sans cesse à la violence de son époque, cette violence monstrueuse, parce que c'est ainsi que vous la qualifiez, en quoi est-ce qu'elle perdure aujourd'hui, sous d'autres formes?
Alors, évidemment, il n'y a plus aujourd'hui d'autodafé, il n'y a plus de bûcher sur lesquels on brûle les pédérastes, les sorcières, les hérétiques de tous ordres, les juifs ou les arabes, il n'y a plus ça. Mais à tout niveau, il y a une violence familiale, on en parlera peut-être pour famille, mais violence politique, violence de notre dépendance au numérique.
Face auquel il faut résister.
Violence devant l'emprise de l'économique sur toute chose. Bref, on n'en finirait pas de décliner les mille raisons de la violence aujourd'hui.
Face à ces temps sauvages, nous espérons toujours que des Don Quichotte nouveaux tournent enfin leur colère contre nos dieux de plâtre et nous ouvrent la marche. Où sont-ils aujourd'hui, les Don Quichotte, Lydie Salver? Où les voyez-vous?
Mais je pense qu'il y en a, mais le propre du Quichotte, c'est qu'il est seul. C'est qu'il est seul, il n'est pas en meute, lui. Il n'est pas dans un parti, il n'est pas dans une institution, il n'a pas la propagande derrière lui.
Alors on ne l'entend pas.
Quand on est seul, on est sans force. Et donc il y en a, probablement, mais isolé. Alors on peut rêver qu'un jour, c'est Don Quichotte isolé face foule.
Oui, c'est intéressant parce que vous parlez de Nelson Mandela, de résistant, mais aussi de votre mère, et à vous entendre, c'est comme si cette figure du Quichotte, elle appartenait surtout au passé. Peut-être que c'est surtout une question de temps, Lydie Salver.
Oh, il doit y en avoir aujourd'hui, bien sûr, des Quichottes. Je cite dans le livre l'exemple de ce garçon de café qui se fait remettre à l'ordre par un patron parce qu'il a trop parlé à des clients et qui dit « Vous m'avez dit ça, je pars !» Et il jette son tablier de garçon de café.
Ça, c'est un geste de Quichotte.
Et ça, c'est un geste quichottesque.
C'est
aujourd'hui, c'était là, dans un café.
Vous savez qu'il y en a une dans cette émission qui se prend pour Don Quichotte. On pensait pas que ça pouvait exister, pourtant ça existe. C'est évidemment la culture et son actualité moulin avant. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 12 septembre?
L'événement happening by Audrey Diwan.
C'est même un sujet qui est toujours tristement d'actualité. Quand on commence à s'y attaquer, on sait que d'une manière ou d'une autre, on sera dans l'actualité.
Heureux événement, la 78e édition du Festival de Venise s'éclot samedi sur le sacre de la jeune cinéaste française Audrey Diwan, que vous avez écouté ce matin au micro de Léa Salamé, et qui repart avec le prestigieux Lion d'Or pour son deuxième long métrage, L'événement, adapté du roman d'Annie Ernaux. Film fort, physique, politique, il met en scène le combat d'une étudiante pour mettre fin à sa grossesse dans la France des années 60, alors que l'avortement y est encore interdit.
Ça fait quelques 2 ans que les équipes de Christo travaillent à peaufiner ce projet.
Empaqueté, c'est pesé. Œuvre monumentale et posthume de Jeanne-Claude et Christo. L'empaquetage de l'Arc de Triomphe a commencé hier à Paris. En tout, 25 000 mètres carrés de tissu d'argent bleuté déroulé sur les 50 mètres de hauteur du monument, soutenu par 3 000 mètres de cordes rouges. Pensez dans la lignée des précédents empaquetages de Christo, comme celui du Pont Neuf en 85 ou celui du Reichstag en 95. L'installation, à l'expressionnisme tendu, à la poésie étrange et sensorielle, sera officiellement inaugurée le 18 septembre et restera visible jusqu'en octobre. C'est cadeau. Oh,
c'est de toute beauté.
De toute beauté, la jeune artiste Johanna Concero remporte le prix de l'illustration jeunesse 2021. Elle est récompensée pour son travail sur l'ouvrage Sénégal, co-signé avec Arthur Scriabine, paru à l'Atelier du Poisson Soluble. Variation en 48 pages sur les rêveries mélancoliques d'un jeune garçon qui voit tomber la neige pour la première fois au Sénégal. Le livre, magnifié par le trait sensible et doux de Johanna Concero, résonne comme une invitation au voyage et à l'évasion. Enfin, l'hommage bleu. Hier soir, à la Philharmonie de Paris, une cinquantaine d'artistes français s'est réunis pour saluer la mémoire et l'œuvre de Christophe, disparu en avril dernier à l'âge de 74 ans. Pendant près de 4 heures, amis et admirateurs se sont succédés sur scène pour réinterpréter les mots, la musique et l'univers du beau bizarre Noctambule. Parmi eux, Kerenan, Raphaël, Jean-Michel Jarre, Laetitia Casta ou encore Arthur Teboul de Feu Chatterton. Que du bon! Et la romancière Lydie Salvert, invitée de Boomerang ce matin pour parler d'illusions salutaires, de mots, mais aussi du regard porté sur celles et ceux que la société désigne comme différents. Je pense évidemment à la figure du fou que vous évoquez dans Rêver debout et dans Famille, vos deux derniers livres qui paraissent simultanément et qui se répondent. Quelle place, en fin de compte, pour celles et ceux que l'on désigne ainsi, que l'on désigne comme fou?
Aujourd'hui, la place des prétendus fous est très 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 douloureuse. Ça n'a pas toujours été ainsi. J'ai lu qu'un conte, comment s'appelait-il ? Bref, un bouffon de Henri IV qui était complètement psychotique, complètement délirant, était considéré comme quelqu'un d'important. Il s'appelait le comte Permission. Ça n'a pas toujours été le grand enfermement dont parle Foucault,
oui,
pour les fous.
Alors, je vous pose la question parce qu'il se trouve que pendant des années, bien avant que vous ne vous autorisiez à écrire, vous avez été psychiatre, Lydie, oui, Salvert. Ces études de médecine, ce métier qui induisent, oui, une très grande proximité avec le corps, oui, et la douleur de l'autre, dans quelle mesure diriez-vous qu'ils ont rejailli sur votre approche de l'écriture, de la littérature ?
Oh, mais probablement, il y a eu des effets indéniables. Ça m'a donné, je pense, une certaine liberté par rapport au dogme psychanalytique, hein, posé souvent comme dogme. Et réciproquement, les années de psychanalyse m'ont amené à une capacité peut-être à entendre que je n'aurais pas eu sans, je sais pas bien. Mais je pense qu'il y a eu des effets réciproques.
Pourquoi vous vous êtes tournée vers la psychiatrie, vous souvenez ?
Oui. Parce qu'il y a eu dans ma famille un cas de maladie mentale, on va dire.
Que vous racontez, on peut le dire aux auditeurs, dans Marché, oui, jusqu'au soir, le cas de votre père qui avait, oui, été interné, oui, devenu psychiatre, est-ce que vous avez fini par comprendre ce qui lui était arrivé?
Je pense que c'est la littérature m'a aidé, je vais vous dire une chose horrible, bien davantage que les manuels de psychiatrie. Je pense par exemple que la lecture de Artaud, du Pesner, de l'Ombilique des Limbes, je pense que le livre de Fritz Horn, Mars, ou que le film qu'on regardait dans ma jeunesse qui s'appelait Family Life, m'ont davantage appris, que l'art m'a davantage appris que les manuels clinique de psychiatrie.
C'est passionnant. Ça voudrait dire que l'art, chez vous, c'est un modèle d'intelligibilité de la vie, Lydie Salver.
Oui, et de son opacité aussi. C'est ça qui est très beau. C'est qu'à la fois, il nous éclaire et il nous rappelle cette part sombre, cette part incompréhensible, énigmatique en nous. Sont ces deux choses, peut-être.
Dans le milieu dans lequel vous avez grandi, poursuivre des études supérieures, qu'est-ce que ça représentait ?
Mais c'était le top. C'était si bien que ma mère m'a dit si fière que j'ai acquis un titre de médecin, elle me disait mais puisque tu es médecin, pourquoi tu t'embêtes à écrire ? Elle ne comprenait pas. La littérature était un tel luxe, une telle chose inconcevable pour elle et dont elle ne pouvait pas, je suppose, apprécier le bonheur, qu'elle me disait, mais avec ce titre de docteur, tu écris, mais c'est dommage.
Mais qu'est-ce qui a rendu possible cette émancipation, votre émancipation ?
Alors, plein de choses ont contribué au fait que je ne suis pas devenue l'ouvrière le destin d'ouvrière auquel j'étais destinée. Et ma sœur aînée qui lisait des livres et qui m'a amenée à lire, un professeur de français qui s'appelait Monsieur Filliol, inoubliable. Le désir de mes parents que je ne reproduise pas leur destin. Enfin,
à vous entendre, il ne suffit pas d'un je le veux. Ça dépend pas seulement d'une question de volonté individuelle.
Mais bien sûr. Je crois que, enfin, ou bien il faut une force qui gigantesque. Mais bien sûr qu'il faut être aidé. Bien sûr qu'il faut être aidé.
Mais vous l'avez cette détermination, Lydie Salver. De qui l'avez-vous hérité?
Il y avait quelque chose de très très obstiné chez ma mère, et l'obstination aussi à ne pas se plaindre. Tu vois, je suis venue à pied, hein, de mon village de Catalogne jusqu'ici, donc tu vas pas me faire pleurer avec tes bobos. Parce qu'elle était venue à pied depuis son village de Fatareille.
Chaque fois que je me sais fragile et prête à renoncer, je convoque son cran, sa détermination et sa dignité qui la tenaient si droite. C'est ce que vous écrivez à propos d'elle dans Rêver debout.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui parfois vous fragilise au point de vous donner envie de renoncer, pour autant ?
Oh, mais mille choses. Mille choses et chaque jour. Certains discours du moment. le destin... des Afghanes en ce moment, mille choses me rendent fragile et me désespèrent, bien sûr.
Et vous invite à renoncer à quoi ?
Mais pas longtemps. Je suis un peu comme le Quichotte, vous savez, le Quichotte, on a toujours l'impression qu'il est au dernier degré qu'il va mourir dans l'instant. Et puis il ressurgit et il repart au combat, comme si de rien n'était. Trois dents en moins, sa lance brisée, etc. Mais il repart. Il y a chez lui quelque chose, une force inépuisable.
Une sorte de pulsion de vie.
Oui, sans doute.
Ça vaut pour l'écriture aussi, chez vous ?
Sans doute.
Vous renoncez, vous revenez, vous recommencez.
Oui, je suis très entêtée, je pense.
Ce geste d'écrire, Lydie Salver, comment se fait-il que vous ayez mis tant de temps à vous l'autoriser ?
Mais parce que, je vous l'ai dit, c'était inconcevable dans le milieu où j'étais de s'engager dans une profession dite artistique. C'était inconcevable. Comment vivre de ça ? Enfin, ça ne venait même pas à l'esprit. Et au mien non plus.
On va reparler évidemment de tout cela juste après une voix qui vous touchera forcément. C'est celle de Luz Casal, Gracias a la Vida. Vous êtes sur France Inter avec Lydie Salver. Vous écoutez Boomerang.
Ça, c'est sympa.
Évidemment.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuanto los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
On est quelque part entre la psy, la prof de théâtre charismatique et le sphinx. Elle a le cheveu blanc coupé court, l'œil chaton, la pommette haute et le sourire qui en dit long, comme si elle était détentrice d'une vérité qui vous échappait complètement, gardienne d'un secret qu'elle garderait pour elle, tout en mystère et tout en noir. Ce matin, l'autrice Lydie Salver, invitée de Boomerang pour parler d'écriture et de langue, parce que c'est peut-être ce qui frappe, hein, à chaque fois qu'on ouvre un de vos livres, la jouissance et la volupté avec laquelle vous semblez vous emparer des mots. Quelle matière est-ce qu'ils sont, les mots, pour vous, Lydie Salver?
Mais les mots, ils ont une chair, un goût, une saveur, une musique. Et écrire avec seulement du sens, sans tenir compte de cette couleur, cette chair, ce son, des mots, ça me paraît une aberration. Et je plaide toujours pour que, évidemment, mais c'est une banalité de le dire, pour que la chair des mots et le sens des mots se rejoignent pour dire la chose mieux.
Et vous plaidez aussi pour qu'on les malmène, les mots, ouais, pour qu'on les bouscule, pour qu'on les chahute.
Ouais, ouais. Piétiner la syntaxe, disait Aragon.
Comment on fait ça?
Eh bien, par exemple, j'aime les livres qui mordent à la première phrase, qui mordent, qui nous attaquent à la première phrase.
Alors comment on fait pour mordre avec un livre, avec un mot?
Mais par exemple, en écrivant sur le Quichotte, en engueulant Cervantes. Vous voyez, on s'attend à ce que je me perde en louanges et admirations, ce qui serait normal et modeste. Et j'ai le mauvais goût, l'arrogance et de l'engueuler. Mais pour mieux l'admirer après, je le dis tout de suite.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écrivez, Lydie?
Ah, je peux me faire rire, figurez-vous. Mais je peux rester des journées sur ma page et pendant des mois, et quand ça me quitte, c'est dur. J'ai l'impression qu'il manque une dimension au monde, vraiment. Mais ça, j'ai peur d'en faire trop, parce que je voudrais pas que ça ressemble à de la pause et tout ça, mais
à vous entendre, c'est le lieu où vous êtes vivante, quand même.
C'est vrai. Un des lieux, c'est vrai.
À quel moment est-ce que vous avez compris que vous étiez mortelle?
Eh bien, j'ai vécu dans l'ignorance de ma finitude jusqu'à ce qu'on me pose le diagnostic d'un cancer. C'est l'année où j'ai eu le Goncourt, d'ailleurs. J'ai reçu les deux nouvelles quasiment en même temps. Et ça a eu un effet très salutaire, au fond.
Parce qu'on s'autorise plus de choses, peut-être?
Alors, de se savoir mortel, ça donne de la... Par exemple, le Quichotte semble ignorer qu'il est mortel. Et ça lui donne de la force. Et du coup, il peut prendre tous les risques. tous les risques. Le fait de se savoir mortel risque de nous rendre prudents devant cette échéance.
On s'autorise à pleurer.
Oui.
Qu'est-ce qui vous fait pleurer, vous?
Alors, oh là là, moi je pleure pour un oui, pour un non, c'est terrible. Les choses les plus sucrées, les choses de Bidinette, les films idiots me font pleurer. Non, et puis des choses plus douloureuses.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de convertir la douleur. En écriture, par exemple.
Non, mais là, tout de suite, maintenant.
Là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, on pleure. Charlie Haden, Libération Musique Orchestra, El Quinto, Arimento. Qu'est-ce qui vous fait pleurer quand vous entendez ça?
Mais c'est le souvenir de ma mère qui chante ce sont les chansons de révolutionnaires de la guerre civile espagnole de 36 à 39. Et ma mère les chantait dans mon enfance et quand je les entends, je suis bouleversée vraiment. Toujours, c'est drôle, hein. Ça traverse le temps.
Parce que vous voyez des images?
Mais ma mère, mais bien sûr. Mais je l'ai souvent à l'esprit.
À quoi servent les larmes, Lydie Salvert, vous qui avez écrit « Pas pleurer », qui vous a valu ce prix Goncourt?
Je dis souvent qu'il ne faut pas en abuser. Moi, je déteste les larmoiements, les déplorations, les grandes plaintes. Et si j'ai de l'admiration pour le Quichotte, c'est qu'il n'y a pas une plainte. On le rosse, on lui crache dessus, on le frappe, on l'injurie. Et jamais, jamais une plainte. Je trouve ça beau. Non, je n'aime pas les déplorations. Mais les larmes, c'est autre chose. Mais je n'aime pas qu'elles se voient. Et je n'aime pas en faire commerce.
C'est un texte qui, d'une certaine façon, répond à cette question que vous nous avez écrite ce matin. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, vous entendre nous le lire.
Ah, oui. Que vaut un livre devant une vie qu'on brise, devant un enfant qui hurle de douleur? Que vaut un livre devant le mal fait à la planète, pillé, salopé, enlaidi et vendu au plus offrant? Que vaut un livre pour des femmes et des hommes accablés par la guerre? À son père qui lui demandait quel livre il aimerait recevoir sur le front où il était soldat, Claude Simon répondit « Je préférerais du café ». Ces questions sont aussi vieilles que la littérature et se posent avec la même force aujourd'hui qu'hier. La littérature ne serait-elle donc un babil pour esthète, un pur verbiage, sans aucune incidence sur nos gestes de chaque jour, un lieu conçu pour nous dispenser de petits rêves de notaire, de belles paroles proférées par les poujadistes de l'indignation, qui se repaissent des malheurs du monde, mais des paroles qui n'engagent à rien? La littérature serait-elle juste cette machine à bercer nos consciences jusqu'à les assoupir, et ce, afin de mieux nous dispenser d'agir? On lit un livre, on le range, on le dîne et on oublie. Mais au moment même où j'écris ces lignes, je repense à Primo Levi, dont le seul fait d'évoquer, devant un autre prisonnier du camp d'Auschwitz, le chant 26 de la Divine Comédie de Dante, « Vous ne fûtes pas faits pour vivre comme des bêtes », redonna soudain à ces deux hommes un peu de l'humanité dont ils étaient atrocement privés. C'est que, sans doute, nous avons besoin d'une chose que nous ne savons pas nommer, d'une chose qui nous dépasse, d'un féroce besoin d'envol, disait Artaud, d'une soif d'esprit, d'une soif d'infini, d'une soif d'impossible, à laquelle la littérature quelquefois répond. C'est que, sans doute, nous ne pouvons uniquement nous satisfaire de ces morales qui nous vantent l'efficience, l'utilité, le pragmatisme et le raisonnable. Que serions-nous, disait Paul Valéry, sans le secours de ce qui n'existe pas.
C'est fou, Lydie Salver, parce que c'est comme si cette question, vous vous la posiez tout le temps.
Oui.
À quoi ça sert ?
Oui, oui, oui. Ah, mais en même temps, comment vous dire, je suis ambiguë, parce qu'elle est... J'aime qu'elle soit inutile,
et oui.
Au sens où on entend l'utilité.
Et faut-il que ça serve à quelque chose ?
Mais en même temps, je suis désespérée qu'elle soit sans incidence sur nos vies. Qu'elle soit lettre morte, qu'elle ne serve que nous soyons toujours aussi bêtes, aussi cons, aussi méchants avant et après avoir lu un grand livre.
Mais vous nous avez prouvé ce matin qu'elle avait changé la vôtre de vie.
Oui, donc j'espère toujours qu'elle peut changer celle des autres.
On y croit.
Ouais.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Lydie Salver, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Rêver debout aux éditions du Seuil et Famille chez Tristram viennent de paraître. Or, ce sont deux livres qui entrent en écho, quel que soit celui qu'on lit en premier d'ailleurs, et qui résonnent avec le monde dans ce qu'il a de plus beau, dans ce qu'il a de plus désespéré, qui nous apprennent à le regarder aussi. Mmh. Et pour moi, comme pour vous, j'ai l'impression que c'est à ça que ça sert.
Mais oui.
La littérature, tout de suite, les médias, Sonia De Villa et son instant M, juste après ça.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France de fond en comble, chaque station essence. J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru le globe sans la moindre carte, dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes. À présent c'est l'automne et plus rien ne m'étonne, elle ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome. Ma route, ma route. Passer les frontières, style derviche, tourneur, contrebandier naguère, demande à ta sœur. J'ai passé le checkpoint, tel un épouvantail, en frappant à ta porte, je montais sur les détails. J'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais soif, enfant de mon époque, sans passion et sans taf. À présent c'est l'hiver, et plus rien ne m'étonne, ni pleurer des rivières, ni les débris de carbone. Je roule. Je voulais te paraître le meilleur du monde. Je regardais la mer comme un vieillard mourant, mais je levais mon verre à tous les éléments, le nez planté au ciel et même au firmament. Mais la route m'appelle, je suis son vieil amant. Je roule.
Benjamin Biolay sur France Inter.